Adelphité, néologisme qui définit la relation entre deux personnes sans distinction de genre ou de sexe. Bienvenue, vous écoutez un podcast qui rassemble sans nier les différences et les oppressions. Pour ce numéro, je suis très heureuse de vous présenter Lily. C'est son premier épisode, alors soyez bienveillants et bienveillantes. Bonne écoute.
Coucou Lily, comment tu vas ?
Coucou, bah ça va super bien. Contente d'être là aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi.
J'ai hâte que tu te présentes et qu'on papote un petit peu. Mais avant, il y a une question rituelle. Ici, on questionne nos identités, comme tu le sais. Et je trouve qu'un bon moyen de le faire, c'est que tu me racontes un petit peu un événement majeur dans ta vie qui t'a fait sentir différente.
Ouais, pas de souci. Faut savoir, il y en a eu pas mal quand même, mais c'était en CP, CE1, et moi j'étais un enfant qui était très très calme et très très réservé dès le plus jeune âge. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, il y avait un élan de colère et je sais plus comment j'ai appelé ma maîtresse, mais je crois que je lui ai dit qu'elle était chiante ou un truc comme ça. Et en fait, c'était pas mon seul défaut, mais c'était le seul truc que mes camarades avaient me reproché. Et du coup, ce jour-là, ils sont vraiment acharnés, genre, à tourner autour de moi, à répéter que j'avais dit que la maîtresse, elle était chiante. Et c'est vrai que c'est l'un des moments qui a créé, genre, ce côté solitaire en moi et me faisant réaliser que, ouais, j'étais peut-être pas la bienvenue à l'école.
Effectivement, je pense que c'est important de rappeler à quel point les événements qu'on vit pendant l'enfance, pendant l'adolescence, marquent l'adulte qu'on devient après, encore plus quand on est tourmenté par certaines questions d'identité qu'on va évoquer, bien évidemment.
Ouais, c'est une période charnière, en fait, et c'est un truc que pendant beaucoup d'années, et ça va, notre génération, on commence à réaliser ça par rapport aux nouveaux enfants qui naissent, mais c'est vrai qu'à mon époque, c'était pas du tout, écouter son enfant, c'était pas du tout la mode, quoi.
On va parler de ton identité, du coup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en une minute? Est-ce que tu penses que tu peux faire ça? C'est une question un peu compliquée, on dirait pas comme ça, mais...
Ouais, c'est vrai, mais quand tu sais qui tu es, c'est tellement facile en fait. Moi, je m'appelle Lily, je suis une femme trans de 23 ans et ça fait un an et demi que je suis dans le 95. Et avant ça, j'étais chez mes parents en Dordogne, à Bergerac, dans le 24, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, ça, en ce moment, c'est la course et j'essaye de me créer ma petite vie sur Paris, ce que j'ai plus ou moins fait, car j'ai mon propre appartement, je travaille, donc petit à petit, je commence à faire ma place ici. Et puis,
Quel conseil tu donnerais aux personnes qui arrivent sur Paris comme ça, qui ne connaissent pas grand monde?
Après, ça dépend, je sais, la personnalité des personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes solitaires et d'autres pas du tout. Mais pour mon cas, c'est vrai que... J'ai pas mal découvert Paris toute seule, en fait. Tout simplement en allant chercher du travail ou tout simplement en allant visiter des endroits que j'avais pas vus. Et c'est vrai que pour moi, Paris, c'est pas forcément un lieu de sociabilisation. J'avoue que c'est plus un lieu là où, lundi, je suis allée faire du shopping toute seule. Je me balade. Voilà, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, quoi. Genre, Paris, tu as toujours quelque chose à faire. Du coup, tu n'as pas d'excuse pour pas vouloir le découvrir, quoi.
Du coup, tu l'as dit, tu es une femme trans. Est-ce que tu peux nous parler de ton coming out et de la façon dont venir à Paris t'a aidé ou non à mieux vivre cette transition?
Pour moi, venir à Paris, c'est ce qui m'a vraiment libérée. J'ai fait des rencontres, des mauvaises rencontres, mais au moins j'ai vécu ma vie de jeune femme et je ne l'ai pas vécu pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, ça, par rapport à ça, ça m'a libérée. Et mon coming out à mes parents, je l'ai fait en septembre. En fait, ils étaient déjà plus ou moins au courant, mais c'est vrai que dans ma famille, surtout à la campagne, il y a la culture du non-dit, c'est-à-dire... On l'accepte, mais on n'en parle pas. C'est vraiment une culture qui est forte en province, encore plus dans le sud-ouest. Donc moi, c'est vrai que j'ai été inconsciemment J'étais embrigadée dans ça et ça m'allait. Ça m'allait pendant un certain temps. Et pourtant, je n'étais pas forcément heureuse, mais c'était juste la façon dont fonctionnait la famille. Et du coup, j'ai décidé de suivre sans forcément qu'il m'oblige. Mais voilà. Et puis en septembre, il y avait des grands changements dans ma vie qui allaient arriver. Je me suis dit, je ne peux pas laisser mes parents louper ce moment de ma vie. Du coup, je leur ai dit par lettre, parce que moi, je ne suis pas une personne qui, même si j'ai l'air de bien m'exprimer et tout, et qui aime communiquer et tout, c'est vrai qu'au niveau familial, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis une personne qui garde les choses pour moi de base. Et du coup, moi, je me suis trouvé la solution de la lettre. Et je leur ai laissé une lettre juste avant de partir de la semaine que j'avais passée
Ah, juste
chez
avant de
eux.
partir.
Ouais, juste avant de partir, parce que je savais qu'il ne fallait pas que j'aie leur réaction du premier coup, parce qu'on aurait pu se blesser, il aurait pu se passer des trucs. Donc, je leur ai laissé 2, 3 jours le temps de bien lire la lettre et de bien truc, pour ensuite réagir par message ou par m'appeler et tout.
Comment t'étais après, dans l'attente, entre guillemets, ou est-ce que t'étais, avais fait ton choix, donc peu importe leur
Ben,
réaction, enfin, comment tu te sentais?
moi, j'étais dans l'attente. J'étais dans l'attente d'une réponse positive depuis le début. Après, je me suis rendu compte que j'ai douté pour pas grand-chose, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Mais franchement, j'aurais jamais cru que je pourrais en arriver là un jour. Mais j'y suis arrivée, ils ont répondu et tout va bien, quoi.
Super. Est-ce que tu as des conseils ou des choses que tu aurais aimé dire à des personnes qui vont vivre ce moment ou qui vivent ce moment ou qui veulent vivre ce moment?
La seule personne qui vous rend heureux ou heureuse, c'est vous-même. Donc, bien sûr, c'est pas fun de vivre sans parents, de vivre sans famille ou de vivre sans potes et tout, mais il faut se rendre compte, et je pense que c'est avec l'âge qu'on se rend compte, qu'on est la seule clé de notre bonheur. Du coup, du moment où on peut devenir indépendante ou indépendant, c'est vraiment le moment là où on va dédramatiser beaucoup de choses qui sont passées dans notre vie. Donc, tout simplement, ouais, se remettre au centre de sa vie, quoi. Ne pas laisser les gens prendre toute la lumière, quoi.
Je trouve que c'est un beau message. Je trouve que c'est vraiment un beau message.
Merci.
J'aimerais aussi te parler de tout ce qui est dysphorie de genre, tu vois. Parce que, évidemment, tu l'as dit, il faut s'assumer, il faut pouvoir compter sur soi. C'est pas facile, mais c'est important. Malheureusement, on vit dans une société qui est transphobe, qui est très problématique. Et du coup, bah, d'avoir ces petites agressions quotidiennes, ça peut être très pesant pour les concernés. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce qu'au contraire, tu as eu un peu le privilège du passing, peut-être? Comment est-ce que toi, tu ressens les choses à ce niveau-là?
Alors, moi, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai la chance de voir presque toutes les faces de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que au travail, je travaille au McDo, du coup, je suis confrontée à tout type de personnes. C'est-à-dire, une personne peut être très, très ouverte, comme une personne peut avoir un regard très, très agressif, te jeter l'argent ou même t'insulter, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup été confrontée à la transphobie au général, même si j'y prête pas attention. Je ne peux pas changer la personne qui est en face de moi. Du coup, quelle utilité pour moi de m'énerver? Moi, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Ouais, c'est vrai que ça a été dur à en arriver là parce que avant, j'étais grave dans la validation des inconnus, des hommes aussi. Ah, ne parlons pas des hommes. Ouais, du coup, j'étais grave dans la validation de tout ce monde-là. Et en fait, c'est quand tu ne recherches pas cette validation que petit à petit, ta dysphorie disparaît. Et j'en suis encore loin, mais très très loin. Mais ça viendra avec le temps. Je pense que c'est un travail sur soi-même avant tout.
Mais en tout cas, tu as l'air d'être dans la bonne voie. Et je pense que c'est vraiment important parce que tout le monde, en fait, dans la société, même les personnes cis, subissent une pression de il faut avoir ce corps-là, il faut correspondre à cette norme-là. Et donc, du coup, je pense que on devrait vraiment comprendre que c'est vraiment un combat qu'on doit mener tous et toutes ensemble. Parce que, enfin, personne ne correspondra jamais à 100% toute sa vie à ces normes. Donc,
Non.
pourquoi est-ce que on veut tant y correspondre? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur notre besoin de se sentir accepté? Alors que,
Ouais.
comme tu l'as dit, la clé, c'est peut-être de s'accepter soi-même. Et c'est encore plus compliqué, évidemment, quand on est trans et quand on ne correspond pas forcément à certaines normes
Ouais.
et représentations médiatiques. Mais en tout cas, je pense que ton discours, il est hyper important. Et le plus important, c'est de s'aimer soi. Et si toi, tu te sens bien, mais qu'on te dit non, non, il faut que tu te sens bien quand tu ressembleras à ça, c'est pas vrai. Si tu te sens bien, tu te sens bien. T'as pas besoin de correspondre à tel ou tel modèle, quoi. Parce que limite, on ne se demande même pas si on est bien avec nous-mêmes. On se demande juste si on est bien avec la société. Alors que, comme tu le dis,
Exactement. C'est en fait c'est ouais c'est clairement la politique du rejet quoi. C'est en fait on fait croire aux gens qu'ils ne sont pas assez suffisants pour eux-mêmes alors que enfin c'est d'une débilité monstrueuse parce que chaque personne a une vie bien différente, chaque personne a un vécu et du coup ce vécu il en découle une apparence peut-être. Si tes parents ils sont enfin je donne un exemple au hasard genre ils sont venus d'Europe de l'Est pendant les années 40. Forcément, tu as un passé, tu as un vécu, tu es différent que une Marie ou qu'une Léa en France, tu vois. Et c'est ça qui crée ta force. Et tout le monde veut, c'est pas s'homogénéiser, tout le monde veut voilà, vous ressembler à la même personne, alors que le seul moyen d'être vraiment heureux et heureuse, c'est de ressembler à soi-même.
Aussi, dans les représentations médiatiques, souvent, tu vois, ils vont traiter cette question-là, ou même quand une personne trans va faire sa transition, ça va être dans la douleur, elle va détester son corps, tu vois, alors que, en fait, peut-être qu'il faudrait aussi arrêter avec ce genre de message.
Il y a un super documentaire sur Netflix qui parle de la transidentité dans le cinéma et de la représentation des personnes trans, donc que ça soit non-binaire, femme trans, homme trans, etc. Au cinéma et on se rend compte que pour beaucoup de femmes trans, la base de la transidentité, c'est la douleur. Genre, elles se rejettent, elles se détestent. Elles pleurent, elles sont abusées. Tu vois, enfin, bien sûr, on ne va pas démentir que la moyenne de suicide chez un adolescent trans est 6 à 8 fois plus élevée qu'un
Bien sûr.
adolescent cisgenre. On ne va pas le démentir. Mais pour autant, dans tout ce trauma et dans toute cette société qui n'est pas faite pour nous, et en plus, n'a pas été construite pour nous. Donc, c'est à nous de construire nos propres trucs. Il reste quand même un espoir et de la joie. Et tu le vois pas plus loin que TikTok. Tu vois la florescence de la transidentité et surtout des femmes trans sur TikTok. C'est un truc qui est encore plus d'actualité maintenant. Après, moi, je dis toujours, quand je fais des lives TikTok, je dis toujours. On peut en voir beaucoup sur TikTok, mais est-ce que les lois et est-ce que les choses dans la rue changent vraiment? Non. C'est pas parce qu'une minorité est plus visible qu'elle est plus entendue. Donc
Oui,
voilà.
je suis totalement d'accord. Surtout que je pense que c'est aussi important de dire que en fait, les personnes trans n'existent pas depuis hier, en fait, ça a toujours existé. Je pense qu'il faut aussi dire que c'est pas que juste il y a beaucoup de trans aujourd'hui. Non, non, c'est juste que on les écoute un peu plus parce que la société, elle change un tout petit peu plus, mais en cas, ça a
Mais
toujours
surtout,
existé, ça
les
existera
moyens de
toujours et.
communication sont plus efficaces. Du coup, il y a plus de visibilité grâce à Internet, grâce à plein de choses qu'avant, il n'y avait pas. Et surtout, les historiens et tout ce qui est histoire, ils ont plus ou moins choisi et gommé plusieurs certains passages. En fait, pour moi, enfin, ce qu'on apprend à l'école, c'est l'éducation faite par des hommes blancs cisgenres. Toutes les questions d'identité, de sexe, de racisme et de personnes racisées est complètement laissée de côté. Genre, moi, je ne savais pas au collège ce que c'était vraiment une femme trans, tu vois.
Comment t'as vécu tes années école, collège, etc.
Alors, philo collège, j'avoue, ça a été une grosse claque parce que c'était assez loin de chez moi. Je prenais le bus. Moi, j'ai eu mon téléphone que très tard. Donc, j'étais encore plus solitaire. Enfin, les ados, ils étaient assez violents avec moi. Donc, c'était pas mal d'insultes, des fois des violences physiques. Parce que les enfants croyaient que j'étais gay, que nanana. Et moi, à l'époque, c'est vrai que je comprenais, mais je comprenais pas parce que je me sens ça. Enfin, pour moi, c'était pas ça, tu vois. Pour moi, c'était enfin, on m'accusait d'une chose que je n'étais pas, tu vois. Donc, toute l'année collège, c'était assez la misère parce que questionnement des autres et questionnement intérieur aussi. Et puis, le lycée, j'ai commencé à m'éloigner de mes parents, donc ça a été mieux. J'ai commencé à me maquiller. Et puis, dans les coups de mes fin de lycée, là, j'ai découvert ce que c'était être trans. Et au départ, j'étais non-binaire parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais vraiment en mode rejet de toutes les identités de genre qu'on m'avait mis dessus au collège et au lycée. Et puis après, je me suis questionnée encore plus profondément et j'ai clairement vu que depuis toute petite, en fait, j'étais une femme. Et que je me masquais juste la vue. Et en fait, quand j'ai retiré ce masque, ça m'a fait réaliser plein de choses dans ma vie et dans mon enfance que avant je mettais ça sur le compte de ouais, je suis gay ou nanana. Et quand j'ai enlevé ce masque, eh ben, c'est là où j'ai vraiment découvert qui j'étais et j'ai su qui j'étais vraiment.
Et comment est-ce que, au cours de toute cette sociabilisation, tout ce que tu as vécu, tu t'es protégée un peu de toutes ces remarques-là, de toutes ces violences physiques, enfin, et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, même si ton identité elle a pu changer, j'imagine que bah, tu es toujours victime de certaines remarques déshumanisantes, de même questions très intimes, par exemple. Comment est-ce que toi, tu te protèges, même si j'ai cru comprendre que ça te touchait un peu moins, mais comment est-ce que tu donnes, quel conseil tu donnerais à d'autres personnes qui seraient concernées par et touchées par ces remarques-là?
Oui, bien sûr. En fait, moi, ça me touchait beaucoup au collège au lycée. J'étais encore pas très mature sentimentalement. Et c'est vrai que comme j'étais quelqu'un de assez solitaire, de très casanière et tout, ben c'est vrai que toute personne se rendait vraiment compte de mon mal-être. Car je le cachais assez bien. Et maintenant, c'est une autre question. Parce que, bien sûr, je suis toujours solitaire et toujours casanière. Mais pour autant, les remarques, quand elles sont déplacées, je ne réponds tout simplement pas et je passe à autre chose. Ou quand c'est vraiment juste pure méchanceté, je fais vraiment un travail de ignorance. Et j'essaie vraiment d'ignorer le maximum possible. Et quand j'ignore pas, j'essaie de faire une remarque constructive, ne jamais être dans la. Parce que ça aussi. Malgré que tu sois opprimé, il faut toujours que tu sois gentil pour expliquer gentiment les choses. Dès que tu es dans l'agressivité, tout le débat et toute la communauté est décrédibilisée. Et du coup, ouais, tu dois poser les choses, expliquer gentiment, même si la personne vient te manquer de respect. Donc, j'essaie d'avoir cette approche-là maintenant, ce qui n'est pas évident et ce qui demande pas mal de baggage, j'avoue.
Mais tu as l'air d'être une femme qui est aussi très éveillée un peu aux questions sociales d'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, tu te définis comme féministe dans une société où il y a un féminisme blanc, un peu, tu sais, un féminisme un peu. Moi, je l'appelle féminisme blanc, mais c'est un peu féminisme mainstream, finalement, tu vois, qui, lui, est pas du tout le mien, mais qui est, tu vois, transphobe, raciste, et qui porte un message de. Enfin, désocialisation de la femme qui est très très réducteur et qui ne représente finalement que très peu de femmes.
Oui, clairement. C'est un féminisme qui est très présent en France aussi. Ouais, les TERF, ce qu'on appelle donc les féministes qui n'incluent pas les femmes trans, tout ça, pour moi, je me considère féministe parce que moi, dans ma définition du féminisme, c'est juste vouloir l'égalité homme-femme et l'amélioration des conditions des femmes dans le monde. Donc, pour moi, oui, à 100%, je suis féministe. Je viens d'une famille de grandes femmes, de grandes dames. Donc, pour moi, la femme a toujours été au centre de tous les débats, de tous les repas.
Je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que même au sein de la communauté trans, par exemple, les femmes trans perdent 31% de leur salaire après leur transition. Comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que par exemple tu as été victime de transmisogynie?
Alors, généralement, effectivement, la misogynie, c'est un truc qu'on retrouve un peu accouplé avec la transphobie. Donc, généralement, c'est quand on est transphobe, il est souvent misogyne en même temps, parce que souvent la transphobie découle, surtout la transphobie envers les femmes trans, découle du fait de la haine de la féminité et de la haine des femmes, tout simplement, parce que pour la plupart inconsciemment et pour la plupart des hommes basiques, je parle, je mets pas tout le monde dans le panier. Un homme qui devient une femme, il perd quelque chose. Alors que techniquement, enfin, moi, je n'ai rien perdu. J'ai gagné juste en confiance en moi et puis tout simplement, quoi. Mais je n'ai rien perdu. Et pour beaucoup de gens, devenir une femme, tu perds quelque chose ou.
Trahis même, tu vois, j'irais même jusqu'à dire que tu trahis, tu vois.
Ouais, clairement de la trahison. Alors que voilà, c'est ça vient tout simplement pour moi, la transphobie a une très grosse racine misogyne.
Pour terminer un peu, j'aurais aimé savoir si pour toi il y avait des moyens de créer des espaces de parole, des environnements safe. Est-ce que toi t'en as par exemple?
Ben, j'avoue, j'ai mes potes. Après, je suis pas une personne qui va parler beaucoup de ma transidentité aux gens comme ça, des amis. J'aime bien en parler à des personnes que je fais confiance ou tout simplement des personnes que je vois qui sont curieuses et qui sont ouvertes d'esprit, ce qui est peut-être un peu rare. Mais pour créer des endroits safe, je pense qu'il faut bien éduquer ses enfants. Parce que moi, je vois les moments là où j'étais moins safe, c'était avec des hommes, donc ça a été dans la rue. Rien que la semaine dernière, je descends du métro, tout le monde me siffle. Bon, ils ne savaient pas que j'étais une femme trans, mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, juste éduquer ses enfants. Et surtout, à des moments là où je sortais avec des hommes. Ils étaient tellement pas éduqués sur l'histoire et sur les femmes trans et la transidentité en général, que même s'ils étaient attirés physiquement par des femmes trans, eh bien, il y avait pas de, ils ne voyaient pas comme une vraie femme ou comme une personne, un être, parce que tout simplement, ben, on est désiré, mais on est caché. Donc ça, c'est un autre truc de violence. Beaucoup d'hommes aiment aussi les femmes trans et depuis des générations, c'est caché et c'est tabou. Alors que littéralement, depuis que je suis en Île-de-France, moi, je pense que 60% des gars, ils ont déjà parlé à une femme trans dans leur DM et vu ce que je reçois, ça fait que confirmer ça, hein. Et franchement, c'est juste, voilà, cesser ce régime du secret. Ce régime du sale aussi, parce que les femmes trans sont vues comme des objets sexuels ou des travailleuses du sexe, alors que la plupart du temps, moi je travaille au McDo, voilà, tranquille.
Mais ça, il faut s'en protéger aussi parce que la fétichisation, tu vois, quand tu peux être fragilisé par une transition, par un isolement, tu vois, bah il peut y avoir des personnes, surtout des hommes cis, qui en profitent. Et comme tu l'as
Exactement.
dit, en plus, tu as dit le mot curiosité,
Oui,
tu
malsain.
as ce truc de curiosité malsaine, plutôt, oui, voilà, où on va se permettre de poser des questions qu'on ne poserait pas à une personne cis. Alors pourquoi est-ce que on se le permet de le poser à une question à une femme trans ou à un homme trans, tu vois?
Par exemple, nombre de fois quand je suis en live, on me demande ce que j'ai entre les jambes et c'est une
Non mais.
question que je réponds tout simplement. Est-ce que tu poses cette question à des personnes dans la rue? Genre, est-ce que tu demandes? Genre, enfin, c'est un problème d'éducation. C'est pour ça que je reprends sur les enfants et je pense que les futures générations ont besoin d'éduquer leurs enfants sur ces questions-là. C'est qu'on va vivre dans une société où les gens vont s'assumer de plus en plus. Et ne créons pas deux côtés, genre ne créons pas deux camps. Essayons que tout le monde soit éduqué et que tout le monde soit safe pour pouvoir se développer. Et ça commence d'abord avec les enfants, tout simplement.
Bah écoute, on va finir ce podcast là où on l'a commencé, du coup, en parlant
Ouais.
de l'enfant. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci.
Merci. Mais merci à toi en tout cas.
On se dit à bientôt.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous, si on veut te suivre, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, est-ce que tu veux donner tes réseaux?
Ouais, pas de souci. Alors, sur TikTok, c'est Lily6Blue, sans majuscule, donc Lily6Blue, Blue. Donc ça, c'est sur TikTok. Et sur Instagram, c'est Lily-du-bas, Blue6. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent. Et voilà, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, soit sur TikTok. Je suis grave active sur TikTok, donc allez-y.
D'accord, merci. Et puis, on se dit à très vite. Merci à vous de
Ouais.
nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Nos DM sont ouverts. On répond évidemment aux questions bienveillantes. Et on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction du moment où vous nous écoutez. Au revoir.
Bisous.